Religion du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les religions face au coronavirus, c'est le thème de Religion du Monde ce dimanche 29 mars. Lundi dernier, une réunion en audioconférence a réuni le président Emmanuel Macron avec les responsables des cultes et les représentants des loges maçonniques et des associations laïques. Plusieurs de nos invités que vous allez entendre par téléphone étaient à ce rendez-vous. Le grand rabbin de France, Raïm Korsia, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, Mohamed Moussaoui, le président du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Au cœur des échanges, la question des obsèques, alors que tout rassemblement religieux est interdit, mais aussi l'accompagnement des personnes à l'heure du confinement, de la maladie et des deuils à venir. L'appel à la solidarité et à la cohésion de la société dans cette guerre contre le virus est sans doute une des missions des représentants des cultes qui relèvent tous que cette période est une occasion pour tisser, voire retisser des liens. Le grand rabbin de France, ancien aumônier en chef du culte israélite des armées, avait publié peu avant cette crise sanitaire un livre sur la fraternité et l'espérance, « Réinventer les aurores », c'est le titre de ce livre publié chez Fayard. Un livre plaidoyer sur le réenchantement de notre société et de notre République, un essai qu'on peut lire désormais à l'heure de la pandémie qui bouleverse nos vies et peut-être nos façons de penser l'avenir. Raïm Korsia, monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en ligne. Est-ce que ce livre, vous l'auriez écrit dans l'état actuel de confinement dans lequel nous nous trouvons ?
Je l'aurais certainement écrit plus vite, parce qu'il y a plus de temps. Mais en même temps, c'est faux, parce qu'on a, on a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup de nécessités différentes de tisser du lien, encore une fois, comme je l'écris dans mon livre. Avec des personnes isolées et à qui on doit faire comprendre que oui, nous sommes isolés, mais pas abandonnés. C'est-à-dire qu'on peut être seul ensemble. C'est quelque chose d'assez fin, d'assez ténu à expliquer, à vivre. Nous pouvons être physiquement isolés, mais nous sommes ensemble. J'avais un copain curé, lorsque j'étais dans les armées, qui avait trouvé un geste formidable à faire à des couples. Le mari était en opération extérieure en Afghanistan, l'épouse était en France, et il leur faisait faire au même moment le rosaire. Une façon de partager le même geste au même moment, eh bien c'est ce qu'on doit essayer de retrouver. Et donc nous sommes forcément en lien avec beaucoup de monde en permanence. Mais oui, pour répondre plus simplement à votre question, je crois que j'aurais écrit absolument le même livre, parce que la façon que nous avons là de vivre nos isolements nous démontre qu'il est essentiel de retisser du lien avec chacun et chacune dans la société.
Alors déjà dans votre livre, vous insistiez sur cette société dont il fallait retisser les mailles, parce que cette société était un peu en état de... Allez, on va dire dislocation, c'était un peu fort, mais en tous les cas, il y avait de la désunion dans l'air.
Désunion, et peut-être pire que la désunion, l'indifférence. Quand vous avez de la désunion, comme la gauche et contre la droite, quelles sont d'idées ? Je pense qu'il faut faire comme ci, vous pensez qu'il faut faire comme ça, bon, bah, deux opinions différentes, c'est pas un drame. Mais quand ce que vous pensez n'importe absolument pas, c'est-à-dire que j'ai de l'indifférence radicale pour des couches, d'autres couches de la société, alors, il n'y a plus de société. Et c'est ce que disait Elie Wiesel. L'inverse de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence.
Est-ce que cette période réveille le militaire que vous êtes, Raïm Korsia ?
En tout cas, dans les armées, j'ai vu l'engagement, j'ai vu la force de l'action, j'ai vu la passion des hommes et des femmes obsédés, obstinés par la mission. Et je pense que nous avons une mission permanente à réenchanter ce qu'est la République. Ce sont les dernières pages de mon livre,
oui.
Où je reprends ce passage de Victor Hugo incroyable. Donc, il explique que l'histoire de la Révolution française n'est pas finie. On a demandé à Chuen Lai, que pensez-vous de la Révolution française ? Il a répondu, il est encore un peu tôt pour juger. C'est-à-dire que nous, on se dit la Révolution française, c'est il y a très longtemps. Mais en réalité, est-ce qu'on a fini de vivre ce que veut dire cette espérance que chacun, chacune est égal, que chacun, chacune a les mêmes droits, que chacun, chacune est solidaire? C'est toute cette façon de rêver la République qu'il nous faut réenchanter, réinventer. On a un verset de la Bible qui dit la chose suivante. Dieu est Mechadesh, j'aime bien le dire en hébreu si vous m'y autorisez.
Au contraire, allez-y.
Mechadesh, Bechol Yom, Tamid, Maase, Bereshit. On le dit dans la prière, tous les jours. Nous. Dieu renouvelle tous les jours la création du monde. Je veux dire que si Dieu renouvelle la création du monde, alors nous devons renouveler notre façon de vouloir faire société. De la même façon d'ailleurs, et peut-être que ce confinement nous y engage, qu'on devrait être capable de renouveler nos sentiments, nos mots d'amour aux gens qu'on aime.
Renouveler même la vie de famille?
Oui. Honnêtement, le confinement nous fait redécouvrir nos enfants dans le quotidien, nous fait redécouvrir la présence des autres. Je n'ai jamais autant déjeuné, dîné avec ma famille que là.
Comment qualifieriez-vous, Rahim Korsia, ce moment que nous vivons, ce moment corona? Vous parliez de Révolution française il y a quelques instants. On a quand même le sentiment que c'est une révolution que nous sommes en train de vivre.
Oui, sauf que nous, chaque fois qu'on vit une révolution, on se dit, bon, après, on revient comme avant. Non, je pense que là, ça a percuté beaucoup de nos certitudes. À quoi? Par exemple,
lesquelles,
tous ces gens qui... pour un exemple simple, très concret. Toutes ces personnes qui brusquement se disent, on peut travailler de la maison. Mm-hmm. Est-ce qu'on est obligé d'aller au bureau? C'est vrai que c'est plus simple pour se parler. Mais quand je vois que des gens d'un bureau à l'autre, c'est-à-dire d'une porte à l'autre, ne se parlent pas et s'envoient un mail, quelle différence de le faire de chez soi à chez soi? On reviendra pas en arrière sur le fait qu'il y a une possibilité de télétravailler. Alors c'est peut-être moins simple, moins habituel, moins dans nos habitudes. Et on s'est rendu compte que cette France dont on se disait c'est formidable, on a des prix Nobel, on a des grands professeurs de médecine, des grands artistes, elle tient grâce à qui? Elle tient grâce aux livreurs, grâce aux éboueurs, grâce aux camionneurs, grâce au personnel soignant, aux caissières, bravo, aux caissières.
Ah, oui.
Moi, j'ai remercié ce matin la boulangère, madame, merci de rester ouverte. Parce que si elle disait, bah, écoute, moi, ça me regarde, ça me gêne pas, de manière, j'arrête. Mais il n'y aurait plus de société. Et donc, cette société, la nôtre, elle tient avec tout le monde.
Et avec des petits, souvent. Et souvent avec des petits, c'est ce qu'on appelle les petits, hein, les bas salaires.
Oui, mais les petits, oui, des gens qui se dévouent, dont au-delà d'un travail qui leur permet de gagner leur vie, c'est leur passion, c'est leur vocation. La boulangère de ce matin, elle n'était pas boulangère parce qu'elle n'a pas pu faire plombier, mais parce que j'imagine que depuis toujours, elle est boulangère dans sa famille, qui a la passion du pain, du contact, bonjour. C'est quelque chose qui nous redonne espérance. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse redémarrer en se disant, bon, tout ça, ça compte pas, c'est faux. La percussion de la réalité, de la faiblesse du système hospitalier, dont on a voulu faire qu'une question de coût. Les hôpitaux se sont fondés sur une nouvelle théorie qu'on a appelée la T2A, tarification à l'acte. Est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'on peut repenser l'hôpital de la même façon qu'avant, alors qu'on sait les sommes de dévouement, les sommes d'abnégation de ce personnel? Non, non, non. Et donc, il va falloir réinventer une nouvelle société. Je pense même qu'il faudra un choc aussi fort que celui dont je parle dans mon livre, qui est celui du CNR, le Conseil National de la Résistance, qui avant même la fin des combats, dans la guerre de 39-45, a imaginé la société d'après. Il faut qu'on imagine dès maintenant la société d'après, et c'est ce que nous a d'ailleurs dit le président de la République dans l'échange que nous avons eu avec lui.
Dans votre livre, Rahim Korsia, effectivement, le fil conducteur, c'est une société désenchantée, une société où règne un négativisme enviant. On peut dire que vous l'avez écrit dans la foulée des Gilets jaunes.
Oui.
Et ça représente. Oui. Comment lire aujourd'hui votre livre avec le coronavirus? On a l'impression que tout s'enchaîne là.
Bah, oui, il y a des situations terribles. Oui, il y a des morts, je reviens d'un enterrement et je peux vous dire que c'est terrible que de faire un enterrement avec 12 personnes écartées de 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres chacun, comme si on avait prélevé les gens qui auraient dû se trouver là et que nous ne trouvions que quelques-uns au milieu d'un espace immense. C'est terrible. Mais en même temps, regardez, on a de quoi manger, nos services tiennent, la société doit affronter l'inconnu, mais elle est debout pour affronter cet inconnu. Et c'est peut-être l'image, moi, qui m'a le plus touché dans cette volonté d'écrire ce livre. C'est lorsque je suis allé chez Soulages, je le raconte au début du livre, et c'est d'ailleurs...
Le peintre Soulages.
Oui, Pierre Soulages m'a fait l'immense cadeau de m'offrir la couverture de mon livre, c'est une de ses œuvres. Parce que les œuvres de Soulages, quand on les voit, elles sont noires. Mais quand on bouge un peu l'œuvre, et quand nous, on bouge un tout petit peu, on voit la lumière à la place du noir. Donc, regardez, on peut voir la situation comme étant catastrophique, mais on peut voir la somme de solidarité. Je prends un exemple vraiment noir, et là, j'arrive pas à trouver de la lumière. Quand même, cette crise nous montre que la situation dans laquelle sont nos aînés dans les EHPAD est catastrophique. Quand on parle... Alors, bien sûr, nos maisons ne sont pas faites pour recevoir nos anciens, notamment lorsqu'ils sont déficients, lorsqu'ils sont atteints d'Alzheimer. Mais on voit toutes ces morts dans les EHPAD. C'est quelque chose qui questionne notre société. Et donc, moi, j'attends que la lumière sorte au sens que nous transformions ce que nous avons, la situation actuelle, en une situation qui pourra être beaucoup plus humaine. Et on voit que, vous voyez, oui, on peut confier nos parents, nos anciens à des personnes, mais quand il n'y a plus la possibilité de visite, d'une certaine manière, ils se laissent partir.
La situation des EHPAD, vous...
Elle me choque.
Elle vous choque.
Mais en même temps, oui. J'incrimine pas les gestionnaires d'EHPAD ou quoi. Je dis simplement, regardez à quel point le lien est important. Dès qu'on a coupé le lien avec les familles, les personnes se laissent mourir. D'une manière ou la maladie, je ne sais pas comment l'expliquer. Je fais simplement le constat qu'il y a une grande question qui se pose sur la situation dans laquelle nous mettons nos aînés.
Votre livre, Raïm Korsia, c'est aussi un livre sur la démocratie et sa fragilité. Oui. Et sa fragilité. Est-ce que vous estimez que cette crise peut renforcer une démocratie, la démocratie, ou au contraire, accroître ses fragilités ?
Non, accroître ses fragilités, je ne pense pas. Je pense que là, on a compris qu'il est temps de faire, comme dit le psaume, il est temps d'agir pour l'éternel. C'est-à-dire qu'en gros, il est temps de faire quelque chose. On ne peut pas dire ça va s'améliorer. Et je ne pense pas qu'on puisse remettre une couche supplémentaire. Il va falloir refaire du neuf. Et notamment en termes de démocratie. Dans mon livre, je parle d'un équilibre à trouver entre la démocratie représentative, celle que nous connaissons avec des élections, et puis une forme de démocratie participative. On doit pouvoir exprimer quelque chose sans remettre en question en permanence les élections antérieures. Il y a une élection qui est faite, un élu quel qu'il soit, un mandat pour une durée déterminée. Ensuite, on doit pouvoir donner notre avis, mais sans délégitimer la personne qu'on a élue. Donc il faut trouver comment revaloriser la parole du citoyen, et notamment le vote. Le taux d'absentéisme est quand même stupéfiant. Pensez que, par exemple, le taux de syndicalisation en France, il est ridicule. On n'est même pas à 8%, et dedans, on inclut la fonction publique qui, elle, est très syndiquée. Donc il faut absolument qu'on réinvente la façon qu'auront les syndicats de proposer, de gérer avec, mais en respectant les responsabilités des uns des autres, mais pas de considérer que la seule façon d'agir, c'est de l'opposition, le blocage. Franchement, les grèves à la CNTF, je pense, en fin décembre, qui nous paraissent maintenant tellement loin et tellement lointaines et tellement incompréhensibles, était porté par très très peu de monde. Et je pense que dans un monde comme le nôtre, avec tant de démocratie, en fait, de capacité à dire les choses, à des lieux de partage, on devrait avoir un autre mode d'expression que le blocage. Donc, je pense qu'il faut réinventer toute la façon aussi d'être citoyen. Si je peux me permettre de vous le dire en un mot, il faut qu'on arrête d'être des consommateurs de démocratie, mais qu'on soit des producteurs de démocratie.
Raïm Korsia, pour les Juifs, ça sera prochainement la fête de Pessah.
Pessah, oui.
Le passage de la mer Rouge, la libération d'Égypte. Par rapport à la période que nous traversons, comment vous voyez Pessah cette année?
Bon, on le voit comme jamais on aurait pu le voir. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous allons vraiment prier et rêver la délivrance. D'habitude, la Pâque, c'est la sortie d'Égypte, la délivrance de l'esclavage. Là, on va comprendre ce que c'est de se sentir enfermé, même si ça n'a rien à voir avec l'esclavage, ce que nous vivons. Mais il n'empêche qu'on va rêver de délivrance. Et comme toujours, dans notre tradition, le mois de Nissan, qui est le mois où il y a la Pâque, et ce mois qui débute là, jeudi, eh bien, nous aurons l'espérance de délivrance.
Délivrance du coronavirus?
En tout cas, de l'enfermement.
De l'enfermement ou oui. Non, mais de la fin du coronavirus déjà, oui, d'avoir abattu en quelque sorte cet ennemi.
Oui, parce que je pense qu'on va trouver comment le juguler. Là, on a trouvé comment le ralentir avec le confinement. On va trouver, j'espère, très prochainement comment le traiter, puis le juguler. Mais en réalité, on va lutter contre celui-ci et il y en aura un autre qui viendra. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus considérer que nos frontières, y compris les frontières européennes, arrêtent le mal. Il faudra s'occuper de chacun et chacune dans le monde et qu'il y a vraiment ce sentiment d'appartenir au genre humain, qui est un.
Et qui est fragile.
Mais vous... c'est sa force de se savoir fragile.
Parce que ça crée de la fraternité?
Oui, ça crée de l'appel aux autres.
Vous parlez de politique de la jubilation dans votre livre et du bonheur retrouvé. Vous imaginez un peu ce moment où, à sortir du confinement, on va où le coronavirus.
Très bien.
Oui, comment vous l'imaginez? Dites-nous.
Il y aura une ruée sur les cinémas, sur les restaurants, sur tout ce qu'on n'a pas pu faire. Les gens feront des voyages, les gens achèteront, les gens consommeront, les gens, j'espère, continueront à s'appeler, à se voir, à garder les chaînes de solidarité qui se seront construites là, maintenant, durant cet enfermement. Et je crois qu'on sortira transformé, mais en jubilant.
Mais vous ne pensez pas qu'on pourra retomber effectivement dans ce cycle de consommation, d'hyperconsommation? Est-ce que cette période spirituelle, parce que quelque part elle est quand même spirituelle aussi, aura porté ses fruits ou pas, selon vous? Ou on oubliera?
Moi, j'ai le sentiment que là, il est question qu'on ne pourra plus éviter.
Lesquels?
Au niveau spirituel, évidemment. De qui dépendant-on? De qui ai-je besoin? Regardez, par exemple, je vais vous raconter quelque chose d'étonnant. Il y avait quelqu'un qui devait faire un mariage, 500-600 personnes. Quand on a fermé les lieux de culte, et que le gouvernement a autorisé à pas plus de 20 personnes dans les lieux de culte, cette personne nous a supplié d'organiser le mariage avec 20 personnes. Ça a été fait. Eh bien, il l'a fait. C'est-à-dire qu'il y avait donc 580 personnes qui n'étaient pas absolument nécessaires pour l'établissement de la joie du mariage. Je ne dis pas plus les inviter, ces personnes, mais je dis, est-ce qu'on a besoin d'être dans la surenchère permanente dans nos vies?
C'est la leçon que vous tirez de cet exemple-là?
Non, une des leçons.
Ouais, mais une des leçons, bien sûr.
Là, je me dis, finalement, qu'est-ce qui est important dans la vie? Peut-être ne pas se sentir seul. Et c'est pour ça que moi, je souffre de l'isolement des personnes à l'orée de la Pâque, qui est une fête de famille. Et ces personnes isolées, je me dis, il faut absolument qu'on s'enquière de leur état de santé, de leurs besoins, et qu'on fasse en sorte que, dans leur enfermement, ils ne se sentent pas seuls.
Guillaume Apollinaire, que vous citez au début de votre livre, « Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Étonnons-nous des soirs, mais vivons les matins. » Alors, nous sommes dans l'ombre, dans la nuit pour l'instant, mais vous voyez le bout du tunnel, vous. Toujours d'ailleurs, c'est votre tempérament.
Oui, mais quand Guillaume Apollinaire l'exprime dans Le guetteur mélancolique, il nous explique que finalement l'histoire du monde, elle est toujours de la victoire du jour. Regardez la Genèse. Lorsque Dieu crée le monde, la Genèse ne dit pas « ce fut un matin, ce fut un soir », elle dit « ce fut un soir, ce fut un matin, ce fut le premier jour ». « Ce fut un soir, ce fut un matin, ce fut le deuxième jour », etc. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le soir, l'obscurité, et le matin, c'est quand les hommes bâtissent ce matin. On allume une lumière pour faire advenir la lumière du monde, la lumière du matin. Et donc, dans l'histoire du monde, il y a des périodes de crépuscule, d'obscurité, d'effroi, d'enfermement. Mais il y a le matin. Et Apollinaire le dit avec des mots merveilleux, « Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores ». Étonnons-nous des soirs, on ne doit pas rester indifférent au soir qui s'abat sur le monde. Mais c'est parce que nous saurons nous étonner du soir, de ce dont je vous parlais tout à l'heure pour les EHPAD, pour tout ce dont nous parlions, le manque de reconnaissance pour certains dans la République. Vous êtes journaliste, comment on considère les journalistes? Est-ce qu'ils sont justement remerciés pour ce qu'ils font? Parce que sans journalistes, aujourd'hui, on ne pourrait plus savoir ce qui se passe, on ne pourrait plus communiquer, avoir des informations. Mais en même temps, trop de journalistes, au sens que d'être collés aux chaînes d'informations continues qui sont anxiogènes au possible, est-ce que c'est bien? Donc, la juste place de chacun, de chacune, c'est ce qui fait advenir le matin.
Je vous remercie, Raïm Korsia. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, « Réinventer l'aurore », et c'est publié chez Fayard. Merci, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Avec nous en ligne, le président du CFCM, le Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui. Mohamed Moussaoui, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Moussaoui, vous étiez présent à cette vidéoconférence qui rassemblait les responsables des cultes avec le président Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez trouvé que c'était une bonne idée? Est-ce que vous avez apprécié cette initiative d'Emmanuel Macron de rassembler les cultes?
Certainement, je pense que le président de la République, via cette audioconférence, a souhaité nous informer de la situation, mais aussi écouter les remontées du terrain via les responsables de communautés religieuses, d'obédience et d'associations de laïcs.
Vous avez été tous sur la même longueur d'onde, toutes les religions?
Je pense que les propos qui ont été tenus par les uns et les autres vont tous dans la même direction. Je dois retenir le fait que la grandeur d'une civilisation et de son rayonnement se mesure aussi par l'attention qu'elle réserve aux êtres les plus vulnérables, notamment en cette période de crise. Tout le monde avait parlé de la préservation de la vie. Nous savons que dans nos différentes foires respectives, ce principe est fondamental. Notre Coran dit « Celui qui tue une vie humaine, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Celui qui sauve une seule vie, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. » Je pense que s'appuyant sur ce principe, les différents intervenants ont tenu à dire que le confinement, les règles de confinement qui visent à sauvegarder des vies doit être acceptées par tous dans la paix et la sérénité.
Cette règle de confinement, Mohamed Moussaoui, elle est relayée par les imams?
Oui, tout à fait. Je pense que le Conseil français du culte musulman, très tôt, dès le 12 mars, nous avons demandé la suspension des célébrations des prières de vendredi. Et dès le 15 mars, nous avons demandé la fermeture de tous les lieux de culte, notamment pour préserver la vie des fidèles, mais aussi pour ne pas mettre en danger autrui.
Chez les jeunes, c'est bien compris, notamment les jeunes dans les quartiers difficiles. Est-ce que c'est bien compris? On a pu voir effectivement des scènes de jeunes qui ne voulaient pas vraiment se conformer dans un premier temps au confinement.
Il y a eu quelques effectivement situations problématiques qui ne sont pas liées en réalité à la religion. C'est plutôt des jeunes qui voulaient braver l'interdit. Nous avons appelé d'une façon solennelle les imams et tous les responsables associatifs à mettre toute leur énergie et leurs efforts pour que ça cesse, parce qu'ils étaient irresponsables de mettre sa propre vie en danger, de mettre la vie de ses proches et de sa famille en danger.
Alors, lors de cette rencontre à distance avec le président Macron, vous avez particulièrement insisté sur une question brûlante, la question des funérailles, Mohamed Moussaoui.
Il est vrai que dans la perspective d'un éventuel manque de place de sépulture dans les carrés, dans les cimetières municipaux, parce qu'il faut savoir que bon nombre de musulmans continuent, dans l'absence d'espace de sépulture dans les cimetières municipaux, à rapatrier les corps de leurs défunts vers les pays d'origine. ce rapatriement est aujourd'hui impossible compte tenu de la situation. Donc nous craignons que les espaces existants ne puissent pas suffire à permettre à tous les défunts d'être inhumés dans la dignité. C'est pour ça que j'ai interpellé le président de la République avec le soutien de tous les autres cultes et je tiens à saluer leur solidarité fraternelle à la démarche du CFCM. Nous avons donc demandé au président de la République et au ministre intérieur chargé des cultes de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que nous puissions inhumer tous les défunts musulmans dans des conditions dignes. La réponse a été favorable du côté du président public. En fait, il a pris l'engagement que toutes les personnes qui meurent sur le sol français puissent être inhumées dans le respect de leur tradition.
Alors, ça veut dire aujourd'hui, les obsèques d'un musulman se déroulent comment ? Combien de personnes peuvent assister à ces obsèques ?
C'est les mêmes règles appliquées à tous, c'est-à-dire moins de 20 personnes. Oui. Après, avec les conditions, les règles d'espacement entre les personnes, toutes les précautions nécessaires. J'attire l'attention sur le fait que nous avons le Conseil français du culte musulman déjà émis un avis pour rappeler que la tradition musulmane a déjà prévu des adaptations des rites dans des conditions exceptionnelles. Ces adaptations s'appuient notamment sur ce principe fondamental que je rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire la préservation de la vie. Donc tout ce qui pourrait mettre en danger la vie du personnel funéraire doit être laissé de côté, c'est-à-dire par exemple la toilette mortuaire, qui est une obligation dans les temps normaux. Aujourd'hui, il est tout défunt exempté de cette toilette mortuaire pour permettre justement de protéger le personnel funéraire.
Comment se déroule, Mohamed Oussaoui, la vie de la communauté musulmane en temps de confinement ? Est-ce qu'il y a, comme par exemple chez les chrétiens, des initiatives en ligne qui peuvent rassembler effectivement la communauté, les fidèles ?
Oui, tout à fait. Je pense que l'impossibilité de célébrer des prières collectives, de se retrouver physiquement ensemble dans les mosquées qui sont fermées, nous a incité évidemment et a incité tous les imams et les aumôniers à prendre des initiatives et d'utiliser tous les moyens de communication moderne pour permettre de maintenir ce lien, cette relation avec les fidèles et notamment ceux qui sont en difficulté, les personnes isolées, les personnes âgées. Je pense qu'il est important que ce lien continue parce que c'est le seul moyen qui nous permettrait de réconforter toutes les personnes en difficulté, en situation de crise et de confinement.
Alors, le Ramadan, a priori le 24 avril, ça va être très compliqué parce que ça sera peut-être, peu vraisemblablement, la fin du confinement, mais il y aura quand même cette période intermédiaire. Le Ramadan, c'est donc un mois. Cette période intermédiaire qui risque d'être compliquée quand même. Il ne s'agira pas de se retrouver le soir, non ?
Tout à fait. Je pense que nos frères chrétiens subissent déjà pour la fête de l'Annonciation et j'ai tenu aujourd'hui à faire passer un message à tous nos frères et nos concitoyens chrétiens pour leur dire notre solidarité fraternelle pour la célébration de cette fête dans des conditions que nous connaissons.
Il faut rappeler qu'effectivement, la Vierge Marie est célébrée en islam.
Et effectivement, je pense que la personne de Marie dans le Coran est un symbole de pureté, de dévouement pour Dieu. Et je pense qu'il y a une sourate qui porte le nom de Marie, mais aussi plusieurs chapitres dans lesquels elle est citée comme exemple de foi et de dévouement pour Dieu. Donc, pour nous, effectivement, c'est une personne très importante dans le récit coranique. Donc, pour le mois de Ramadan, comme vous le disiez, effectivement, nous allons célébrer très probablement le Ramadan dans des conditions inédites. Les mosquées sont fermées aujourd'hui et les prières de nuit qui marquent ce mois, des moments de partage aussi très importants, probablement vont se dérouler d'une manière différente. Nous avons déjà commencé à réfléchir sur le fait de préparer des repas, notamment pour les personnes en difficulté, et de distribuer ces repas d'une autre manière. Avant, les gens se retrouvaient ensemble, partager ensemble ce repas de rupture de jeûne. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement dans l'obligation de le faire avec d'autres moyens. Mais aussi les prières de nuit, effectivement, ils seront pas célébrés dans les mosquées, mais les imams, ils sont en train de préparer la manière dont ils vont continuer à célébrer ces moments importants par le biais des réseaux sociaux.
un ramadan, effectivement, qui s'annonce de façon totalement inédite, Mohamed Moussaoui.
Tout à fait, comme les autres fêtes d'ailleurs religieuses, des autres communautés religieuses qui vont intervenir pendant ce mois d'avril, en fait.
Une dernière question. Lors de cette rencontre à distance avec Emmanuel Macron, les responsables des cultes, notamment vous d'ailleurs, hein, ont demandé un numéro vert interculturel. Quelques mots sur ce numéro?
Effectivement, je pense que nous avons fait le constat qu'il y a un numéro vert unique, le 0800-130-1000, qui permet donc à tous les citoyens de s'informer sur le Covid-19. Mais on s'est aperçu très vite que ce numéro très très généraliste ne permet peut-être pas à ceux qui répondent de l'autre côté ou les écoutants de pouvoir satisfaire toutes les demandes des citoyens. Le Haut Conseil de la Santé publique a proposé, le Haut Conseil scientifique a proposé de créer trois plateformes téléphoniques, une dédiée au personnel de la santé pour pouvoir qui puissent trouver une écoute de l'autre côté, une écoute psychologique, une plateforme dédiée à toutes les questions psychologiques ou des personnes qui ont besoin de parler, d'échanger et de dire ce qu'ils ressentent comme difficulté intérieure. Et puis une troisième plateforme dédiée à l'interculturel, c'est-à-dire des personnes qui veulent une écoute spirituelle, et donc un numéro qui pourrait être national, et puis à travers ce numéro, les personnes sont redirigées vers des numéros mis en place par les différents cultes pour pouvoir apporter cette écoute spirituelle.
Une hotline spirituelle. Merci Mohamed Moussaoui d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Un carême inédit qui rime avec quarantaine cette année pour les chrétiens. Avec nous en ligne, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. Mon père, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous.
Vous étiez à cette vidéoconférence, donc lundi dernier. Qu'en avez-vous retenu?
Bien, j'ai retenu, moi, l'engagement du président, la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons, la nécessité de prendre vraiment au sérieux toutes les mesures de protection à prendre, et aussi l'intérêt pour le soutien, disons, spirituel au sens large, puisqu'il y avait à cette réunion aussi les loges maçonniques, le soutien spirituel à la population dans ce moment assez étrange.
Ce carême se déroule sans messe, sans rassemblement. Vous avez parlé d'une première dans l'histoire, et puis évidemment le dimanche de Pâques, hein, il n'y aura personne dans les églises. Vous avez parlé d'une première dans l'histoire de l'Église.
Ben oui, je suppose, parce que nous sommes aussi la première génération qui sait si bien comment fonctionnent les épidémies. Donc je suppose que dans les épidémies du passé, je pense qu'il y a eu des moments où il y a eu peu de monde dans les églises et peu de rassemblements. Mais on avait moins idée de la manière dont se passait la contagion. Donc les mesures n'étaient pas les mêmes. Mais cela dit, nous sommes aussi la première génération qui bénéficie de transmissions aisées sur des réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, les radios. Donc on va essayer de vivre ce carême, et la semaine sainte surtout, dans cette étrange situation.
Quel est le rôle, comment voyez-vous le rôle des religions précisément dans cette période de coronavirus, Mgr Éric de Moulin-Beaufort?
Ben, comme toujours dans toute la vie humaine, il s'agit d'essayer de vivre ces situations qui s'imposent à nous de la manière la meilleure, la plus riche, la plus profonde possible. Donc ne pas se laisser enfermer dans la peur, ne pas se laisser enfermer dans l'égoïsme, ne pas se laisser enfermer dans le souci du lendemain à court terme, mais il me semble que notre foi peut nous aider, nous aide à vivre cette période comme un temps inédit d'approfondissement intérieur, de relations les uns avec les autres, d'attention à ce qui nous entoure de près ou de loin, et puis de réflexion sur ce qu'est la vie, sa fragilité, sa beauté, sa force, qu'est-ce que nous voulons vraiment vivre, pourquoi vivons-nous? En vue de quoi, en vue de qui, qu'est-ce qui pour nous donne de la saveur, de la dignité, de la beauté à notre vie, à chacun et à celle de tous.
Vous avez effectivement dit que nous devons nous interroger sur nos choix collectifs et individuels.
Mais ça, on doit le faire depuis longtemps. Ça fait des années que nous savons que nous devons changer de mode de vie à cause de ce qu'on peut appeler globalement la contrainte écologique, et nous avons beaucoup de mal à le faire, même si certains le font réellement, mais disons collectivement c'est difficile. Le président de la République a assuré que nous sortirions différents de cette crise, très bien. La Bible est remplie d'appels ou d'avertissements à propos de la fausse conversion, c'est-à-dire quand la menace est proche, tout le monde tourne vers Dieu pour premier état de choses. Dès que la menace est passée, on reprend la vie ordinaire. Donc Dieu se montre patient, la nature peut-être moins. Je pense que nous avons à tirer profit de ce temps de confinement aussi pour réfléchir à la fois chacun et puis en même temps collectivement à notre mode de vie, à ce qui est vraiment important, au mode de production, au mode de consommation. Nous découvrons que nous pouvons vivre sans prendre l'avion toujours, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le prendre pour autant. Bon, voilà, il y a des tas de questions importantes qui étaient en cours, qui s'impose à l'humanité depuis longtemps, mais auxquels nous devrons réfléchir à la lumière de ce qui vient de nous arriver.
Vous avez décidé de faire sonner les cloches, hein, mercredi, donc à 19h30, ainsi que l'allumage des bougies. Vous estimez que ce sont des gestes, finalement, qui doivent rappeler que voilà, nous fraternisons tous ensemble face à cette épidémie du coronavirus.
Ben voilà, je pense qu'il faut trouver différents moyens de nous montrer les uns aux autres, que nous pensons les uns aux autres, en particulier que nous pensons à tous les soignants qui, au sens large, à tous ceux qui rendent possible la vie des hôpitaux, des cliniques, ou tous les médecins, toutes les infirmières en libéral d'une façon ou d'une autre, penser que nous les soutenons, que nous leur sommes reconnaissants, penser à tous les mourants, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont en mauvaise situation et qui sont seuls à l'hôpital, qui ne peuvent pas recevoir la visite des leurs, et puis à toutes les familles en deuil aussi qui ne peuvent pas accompagner les leurs dans la maladie ou dans l'approche de la mort comme elles l'auraient voulu. Donc à défaut de pouvoir nous serrer dans les bras, de pouvoir nous embrasser, de pouvoir nous tenir la main, il faut que nous nous serrions spirituellement les uns les autres en quelque sorte. Ça a été un des objectifs de cette soirée du 25 mars pour nous, fête de l'Annonciation.
Je vous remercie, Monseigneur Éric de Bouvelaufort. Et nous refermons cette émission sur les religions face au coronavirus avec Éric Vincent, spécialiste des rapports entre la religion et le politique, spécialiste du fait religieux et de la laïcité, co-auteur d'un livre sur Nelson Mandela et Gandhi et responsable du programme Emouna à Sciences Po. Éric Vincent, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelques mots déjà sur ce programme Emouna à Sciences Po que vous accompagnez.
Alors, le programme Emouna, l'amphi des religions, a été créé il y a 4 ans maintenant, nous sommes dans la 4e promotion, et c'est un programme de formation interreligieuse et laïque, très original dans notre pays, puisqu'il est proposé aux ministres du culte des principales religions présentes dans l'Hexagone, ainsi qu'à des permanents des communautés religieuses, permanents non clairs, et puis aussi, je dirais, aux autres professionnels potentiellement concernés par le sujet, donc des hauts fonctionnaires, des responsables associatifs, des journalistes, pourquoi pas, qui travaillent aussi sur le fait religieux et la laïcité.
Et alors actuellement, comment ça se déroule, précisément, puisque les rencontres
alors,
peuvent se faire
Bien sûr, nous sommes donc dans le même temps de crise que tous nos concitoyens et donc nous avons redéployé notre programme de formation en ligne, à distance, grâce aux outils du numérique. Et donc nous sommes en train de repositionner les journées qui étaient à venir avec un dispositif d'échange et de, voilà, de communication des intervenants, des experts, par le virtuel.
Et
voilà.
Est-ce que vous partagez vos expériences, justement, Éric Vincent ?
Oui, on a aussi toute une dimension, bien sûr, humaine. Hein. C'est le cœur du programme Emouna, qui est la rencontre interpersonnelle, en fait, et les échanges et le dialogue de personne à personne entre ces publics très divers venus de différents horizons religieux, philosophiques. Et donc, en ce moment, on a, par exemple, des échanges entre ministres du culte, certains sont aumôniers d'hôpitaux ou aumôniers de prison, et qui évoquent entre eux, donc, et se soutiennent mutuellement face à la crise actuelle et bien sûr la charge qui pèse notamment sur tout le personnel hospitalier, sur les familles. Donc il y a aussi cette dimension humaine qui est très très importante dans le programme Emouna.
Oui, d'ailleurs, effectivement, avec ces aumôniers de prison et d'hôpitaux qui ne peuvent pas venir visiter les malades ou les prisonniers. Voilà. Pour vous, le fait religieux, les religions sont très impliquées dans cette crise. Et déjà, vous évoquiez le fait que, par exemple, dans le Grand Est, la crise sanitaire a commencé par un rassemblement d'une église évangélique.
Oui, tout à fait. En fait, on n'a pas l'habitude tellement dans notre pays de voir comment le fait religieux est connecté à tout un tas de problèmes, et en l'occurrence des problèmes de santé publique. Et là, donc, on a des exemples tout à fait frappants avec ce que vous rappeliez, mais aussi le départ de l'épidémie en Corée, qui était lié à un groupe évangélique aussi. Et puis, ce qui s'est passé notamment en Iran, puisqu'on pense aussi qu'une bonne partie de la contagion dans ce pays est lié à la venue de séminaristes chinois chiites qui venaient dans les universités religieuses iraniennes. Et donc on a vraiment des exemples de l'impact du fait religieux sur donc des domaines a priori non religieux et notamment sur la santé publique. On avait déjà eu le même genre de choses dans le cadre de l'épidémie d'Ebola aussi, où on sait que dans les pays concernés africains, les rituels mortuaires, les obsèques avaient un effet aussi important dans la diffusion du virus. Donc là, c'est déjà, je dirais, une question importante de prendre la mesure de ce type de phénomène et qui souligne l'importance du fait religieux et le fait de diffuser aussi une culture et une connaissance sur ces thématiques auprès de tous et auprès des citoyens, auprès des décideurs, parce que ça fait partie des choses importantes.
Oui, alors sans pour autant, bien sûr, jeter l'anathème sur ces rassemblements qui ignoraient évidemment la dangerosité du virus.
Ce qui implique justement aussi, comme dans un cadre de formation, par exemple de ministres du culte, d'attirer l'importance de ces derniers, d'attirer l'attention de ces derniers sur aussi ces aspects-là, qui à titre de prévention, par exemple. Hein, voyez, et on voit bien que c'est ce qui se passe aussi à l'heure actuelle avec la question des rassemblements religieux qui sont donc stoppés pendant le confinement collectif et qui ont donc un grand impact sur les sanctuaires. Hein. On sait que le sanctuaire de Lourdes a été fermé pour la première fois de son histoire dans le cadre du confinement. On va célébrer aussi les fêtes de Pâques au Vatican à huis clos sans fidèles. À la Mecque aussi, il y a une grande réduction des pèlerins. Donc on voit comment la situation sanitaire a des effets, là pour le coup aussi sur la poursuite des activités religieuses. Et c'était aussi un sujet donc, qui était au cœur des échanges entre le président de la République et les autorités religieuses lundi 23 mars.
Oui, puis effectivement, il y avait aussi la centrale, la question, hein, bien sûr, des funérailles. Sur cette crise, vous estimez que, il y a une large réflexion à faire, une réflexion métapolitique sur cette crise du coronavirus. Alors expliquez-nous, Éric Vincent.
C'est-à-dire qu'en fait, on peut percevoir que cette crise actuelle est une crise religieuse en partie. Hein. Elle touche évidemment, c'est une crise globale, donc elle touche à tous les aspects de la vie individuelle et collective, et notamment aux aspects religieux, de la façon qu'on vient de dire, de façon, on pourrait dire, très concrète, mais je dirais d'une façon plus profonde ou plus inattendue, d'une certaine façon plus globale, dans la mesure où on voit comment les autorités publiques, hein, le président de la République en l'occurrence, n'hésitent pas donc à mobiliser les autorités morales, selon l'expression consacrée, pour les impliquer, je dirais, dans la réponse collective face à ce qui se passe, notamment bien sûr toute cette dimension de gestion des décès en fait, hein, et des funérailles, du deuil des familles, de l'accompagnement qui va en la matière, mais aussi plus largement assumer une prise en compte du défi à la fois psychologique, et moral et spirituel. Le terme est mobilisé explicitement dans la communication officielle, autour donc de l'épreuve que nous affrontons tous. Et ça me semble donc très intéressant de voir comment les responsables politiques de notre pays n'hésitent pas à venir sur ce terrain, ce qui est quand même assez inattendu ou surprenant dans le cadre de la République laïque qui est la nôtre. Et on peut, dans le même ordre d'idée, remarquer aussi, par exemple, que le président de la République, dans ses discours successifs liés au confinement, a eu des expressions assez fortes qui dépassent là aussi le champ politique habituel, puisqu'il nous a appelés, nous tous, citoyens français, à nous soucier du sens des choses, à retrouver aussi le sens de l'essentiel, hein, je le cite, à ne pas céder à la panique, mais avoir un esprit de responsabilité. Et là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant sur en fait la prise de conscience extrêmement appuyée sur le lien entre l'individuel et le collectif. On sait qu'on est dans des sociétés quand même où la question du lien est très problématique, en fait, le lien social, le lien politique, etc. Et là, on a vraiment un moment où on va souligner particulièrement comment le comportement personnel, et en l'occurrence le respect du confinement, a des impacts sur la vie de tous, hein, notamment bien sûr la vie des soignants, mais aussi la diffusion du virus et donc l'intérêt général.
Oui, sortir et d'un hyper-individualisme souvent dénoncé. Hein.
Voilà, et donc quand on parle de ce lien entre l'individuel et le collectif, on est, je crois, directement dans la question du religieux. Rappelons-nous que l'une des étymologies du terme religion vient du latin religare, qui renvoie à l'idée de lien. Donc cette question de la connexion entre l'intime et le général est très remarquable dans la crise qui nous arrive. Et donc on peut là constater cette mobilisation de l'éthique et du spirituel en politique, voilà, y compris dans un cadre laïque.
Vous avez trouvé intéressant précisément que le président convoque non seulement les responsables des cultes, mais aussi par exemple de la franc-maçonnerie.
Oui, tout à fait. On voit aussi qu'on est dans une ouverture, je dirais, de la conception de ces autorités morales et religieuses. Hein. On n'est pas dans du religieux au sens strict, puisque dans le fait, il y avait les représentants de la Conférence des cultes de France, hein, donc les principales religions présentes dans notre pays. Mais on avait aussi des représentants de la libre pensée, des représentants des obédiences maçonniques, des représentants du mouvement laïque, comme on dit, entre guillemets, ainsi que un philosophe. Donc on voit là aussi une conception élargie, je dirais, et véritablement démocratique, hein, véritablement pluraliste, de cette notion d'autorité morale. Hein. Le religieux n'est pas exclu, comme certains pourraient s'y attendre, mais il n'est pas non plus le seul à être invoqué. Hein. Il est mobilisé à côté d'autres traditions de pensée, d'autres courants philosophiques, pour une contribution générale et une mobilisation générale au service du bien commun.
En fait, activer toutes les forces morales de notre pays, Éric Vincent, pour faire front commun.
Tout à fait.
Je vous remercie, Éric Vincent. Donc, je rappelle que vous accompagnez à Sciences Po le programme Emouna. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Au revoir.
Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Laurent Salerno vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
Tout à l'heure, sur